Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale di Tele Paese, questo martedì 30 di giugno, l'ultima di un mese, e ci ritroviamo per mattinale di Radio Corsica Internazionale con tutta la squadra.
Bonjour, salut à tous.
All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
Un grand bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs, donc de cette matinale. C'est la dernière du mois, et c'est aussi la dernière de la saison. On va se prendre quelques petites vacances, donc, avec toute l'équipe, mais vous en parlerez en fin de matinale. Pour l'instant, tout d'abord, tiens, on va vous souhaiter une très très bonne fête à tous les Martials, tiens, aujourd'hui. On va faire un petit point avec Philippe Jam. Le ciel se couvre sur l'ensemble de l'île. On va voir un tout petit peu comment va se passer cette journée au niveau météo. Et un petit point information aussi avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce mardi, la Corse est placée en vigilance orange pour le phénomène canicule et jaune pour le phénomène orage. Le temps s'y sera souvent ensoleillé en bord de mer, mais dans l'intérieur de l'île, sur le relief, des nuages vont se développer, donnant des averses, voire même des orages. Les températures maximales se situeront entre 25 et 33 degrés. Les brises seront faibles à modérées. Importante opération de secours en montagne hier du côté d'Ascq ou en Haute-Corse. L'homme de 48 ans qui escaladait la roche à la tête d'une cordée de 3 personnes a soudain dévissé et chuté d'une trentaine de mètres. Retenu par son système d'assurage, il s'est retrouvé suspendu, la tête en bas. Le groupe montagne des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse a pu le dégager de sa mauvaise posture et l'hélicoptère Dragon de Bay l'a ensuite élitreillé et évacué sur le centre hospitalier de Bastia. La victime souffre de multiples blessures. Après les coups de feu tirés à Ponte-Novo, un homme interpellé dimanche a été mis en examen pour violence volontaire avec armes et détention et port prohibé d'armes et de munitions. Il a été placé en détention provisoire. Antoine Soussogne est connu des services de police et de gendarmerie. C'est lui qui aurait été visé par les tueurs lors de l'assassinat par erreur de la jeune Chloé Aldrovandi en février 2025 à Ponte-Leccia. Ce mardi s'ouvre à Marseille et jusqu'au 3 juillet le procès de 7 hommes soupçonnés sous fond de guerre de clans d'un projet d'assassinat en plaine orientale en 2021. En mai de cette année-là, Carlo Andrea Sisti et Pierre-François Stari avaient été interpellés lors d'une opération de gendarmerie entre Moriani et Tchervion. Lors de l'enquête, les gendarmes avaient ensuite découvert un mini-arsenal composé de 4 fusils, un Glock, des boîtes de cartouches, 2 combinaisons blanches, des gants noirs, un casque de moto et des bouteilles d'acétone. La polémique sur la croix de Coascar a relancé après que la Cour administrative d'appel de Marseille a rendu sa décision dans cette affaire. Elle a jugé non conforme à la loi l'installation de l'édifice religieux haut de 3 mètres qui avait été installé donc à l'entrée du village en 2022. Le maire de Coascar doit retirer la croix. Il a 2 mois éventuellement pour se pourvoir en cassation. Cette affaire avait débuté en avril 2023 lorsqu'une administrée de la commune inscrite sur une liste concurrente au municipal de 2014 avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Bastia pour faire retirer la croix au nom du principe de laïcité. La communauté d'agglomération de Bastia vient de créer une brigade intercommunale dénommée Pulizia Verde. 2 agents formés au droit pénal et à la procédure pénale, assermentés, seront ainsi chargés de constater les infractions liées aux déchets, mais aussi de privilégier la prévention et l'accompagnement des usagers. Et donc prévenir des infractions. Cette brigade pourrait entrer en fonction à partir du 1er octobre. Il faut savoir qu'en 2025, près de 27 700 tonnes de déchets avaient été prises en charge sur le territoire de la CAB. Malgré ces investissements, les comportements inciviques persistent et compliquent le fonctionnement du service public. En partenariat avec la collectivité de Corse, le bailleur social Erilia, qui gère nombre de logements sociaux à Bastia, a engagé hier une opération de rénovation de grande ampleur dans le secteur de Paisenove, dans les quartiers sud de Bastia. Isolation des bâtiments, modernisation des logements, sortie du gaz au profit d'installations individuelles 100% électriques, accès aux personnes à mobilité réduite ou encore système de brasseurs d'air. 417 logements, 30 bâtiments construits en 1976 françaises sont concernées par ces travaux. Coût total de ces travaux d'une durée de 36 mois, 28 millions d'euros. Alors que la DNCG examine ce mardi le budget du Sporting Club de Bastia, 9 millions d'euros, le groupe sportif qui évoluera en Ligue 3 cette saison a repris l'entraînement hier sous la direction du nouvel entraîneur Laurent Perrelade. Il se compose de 22 joueurs, mais d'ici quelques jours, le club devrait encore connaître des départs et des arrivées. Coup d'envoi de cette Ligue 3 le 7 août prochain. Voilà donc pour la météo, l'information, et on vous retrouve dans un petit moment donc pour les titres de l'information. On se fait un petit détour pour les pronostics épiques, on s'en va du côté de Vichy avec Rémi. Notez bien, hein, c'est les pronostics du jour, donc pour aller les jouer dans votre PMU le plus proche.
Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vichy. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 1 Jolly Star qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la seconde course où le 9 Mélospeed devrait l'emporter et on terminera par la troisième où le 6 Ivre de Troyes ne devrait pas sortir des trois premiers. Bon jeu à tous.
Voilà, et un grand merci à Rémi que même si les matinales sont en pause pour l'été, vous le retrouvez bien sûr sur Radio Corse International tout au long de l'été. Hein. N'hésitez pas à aller vous faire un petit détour sur la plateforme de Radio Corse International et sur les podcasts. L'horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre donc, pour la dernière donc, de la saison.
Bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez avoir aujourd'hui des disputes, des incompréhensions au niveau sentimental à gérer. Prenez du recul, prenez l'air avant d'aller vers la discussion pour que les choses se passent au mieux. Les taureaux, il y a certaines choses qui vous restent en tête, certaines rancunes que vous n'arrivez pas à oublier ou à passer outre. Il va falloir digérer tout cela pour que les choses s'améliorent. Les Gémeaux, vous auriez envie de vous concentrer sur votre bonheur et votre bien-être, mais peut-être que certaines choses vous restent en tête et vous empêchent de vous focus là-dessus. Essayez de voir ce qui est jouable pour pouvoir régler ces petits soucis afin de profiter de l'instant présent. Les Cancers, l'évolution dépend de vous. Par moments, il faut essayer de lâcher prise, même si ce n'est pas évident. Mais justement, trouvez une occupation, quelque chose qui vous permettra de lâcher un petit peu votre cerveau et de juste vous concentrer sur quelque chose de spécifique. Les lions, vous ne pouvez rien contre la jalousie des autres, et même j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de comprendre cela. Chacun a ses raisons d'éprouver telle ou telle émotion. Avancez, pensez à votre bien-être, et surtout ne prenez pas cette jalousie pour vous, vous n'en êtes pas fautif. Les vierges, vous serez à 100% au niveau de l'amour, vous serez ancré très à fond dans une relation pour que cela dure et pour que cela continue et avance au mieux possible. Bien sûr, vous ne devez pas être les seuls à faire des efforts. Les balances, faites attention à certains jaloux, à certaines personnes qui pourraient être fausses autour de vous. Au niveau professionnel, ne donnez pas votre confiance en un claquement de doigts. Les scorpions, il y a des événements ou des choses qui vont vous empêcher de vous sentir complètement serein. Faites preuve d'observation pour voir justement qu'est-ce qu'il y aurait à régler ou qu'est-ce qui justement vous empêche de vous sentir vraiment mais zen et chill. Les sagittaires, vous passerez à l'action par rapport à certaines choses qui peuvent se terminer, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, l'amour, le travail, votre vie au quotidien. Il faut laisser les choses qui se terminent vers le passé et continuer d'avancer. Les Capricornes, vous ferez de très belles rencontres et vous aurez justement des belles personnes face à vous tout au long de votre avancée. Aujourd'hui, vous pourriez trouver de très belles personnes sur votre route. Les Verseaux, vous avez la capacité d'avancer, d'apprendre énormément de ce que la vie vous donne. Continuez ainsi et vous créerez de très belles choses. Et enfin, les poissons, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aurez clairement pas envie d'avoir un point de vue ou une écoute sur le jugement ou les pensées des autres. Vous allez vous focus sur vous et sur ce que vous faites. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Merci Paxi. Paxi aussi, hein, vous la retrouvez sur la radio. Hein, c'est la partie télé qui part un peu en vacances. Et la radio continue quand même avec l'ensemble des informations et des chroniques. Hein. Bon, on va se refaire un petit retour en arrière sur les invités qu'on a eus il y a quelques jours. On va tout d'abord commencer par une écrivaine. Et on va retrouver aussi André Casabianca. Et c'est au micro d'Elisa Allary.
Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, chers auditeurs, chers téléspectateurs. J'ai la joie de recevoir Marie Maurit qui va nous parler d'un très très beau roman aujourd'hui, L'Enfant des cendres. Marie, bonjour. Bonjour. Très très contente, vraiment. Merci. Merci, très très contente de vous avoir ce matin. Alors, dans un endroit privilégié, aujourd'hui c'est hors studio et ça nous va très bien. On remercie d'ailleurs le Saxe Café de nous recevoir. Marie, alors, vous avez pas mal de casquettes, je vais essayer de vous présenter. Dites si j'ai bon. Je remets mes lunettes. Alors Marie, vous êtes écrivaine, auteure, fondatrice de la maison d'édition à Manonnières, créatrice d'un lieu de soins, la parenthèse de Marie, dédiée au rituel et à l'accompagnement des femmes, c'est cela, à Ajaccio. Bon, jusque-là, ça va. L'Enfant des cendres est votre troisième roman. Et le premier publié au sein de votre propre maison d'édition à Manonnières.
En avril dernier, c'est ça.
Parfait. Marie, alors évidemment, hein, j'ai lu avec attention et grand plaisir ce roman. Ma première question, c'est l'écriture. A-t-elle toujours fait partie de votre vie? Il me semble avoir entendu tout à l'heure, lorsque nous discutions, que depuis que vous êtes en capacité, c'est ça de tenir un stylo. Marie, alors cette écriture a-t-elle toujours fait partie de votre vie, en fait?
Oui, depuis que je suis en capacité de tenir un stylo, j'écris. J'écris puisque c'est une transmission que ma grand-mère m'a donnée. C'était une femme qui était amoureuse des mots, des lettres et du verbe. Et du coup, j'ai commencé à lui écrire de manière très régulière. On s'écrivait toutes les semaines. Et l'écriture a continué comme ça, à grandir en moi.
Donc ça a débuté avec une histoire de correspondance, c'est ça?
C'est
ça. Une écriture épistolaire.
Exactement.
C'est magnifique cette histoire. Hein. C'est très très beau.
Je ne sais pas si c'est magnifique, en tout cas oui, c'est ce qui a permis à mon écriture de grandir et de germer en moi.
Très bien. Moi j'avais une question. Alors, avec l'écriture comme avec les parenthèses de Marie, vous semblez emprunter finalement une démarche qui pour moi est assez thérapeutique. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Donc approcher les êtres hein, au plus près de leurs blessures, de leurs récits, de leurs traumas. Est-ce que c'est pour mieux finalement les réparer?
Alors, en toute honnêteté, je suis un petit peu, je me mets un peu à distance du terme thérapeutique.
D'accord.
Parce que je ne suis pas thérapeute. En revanche, oui, le lien qu'il y a entre l'écriture et le soin, c'est vraiment de remettre l'être au centre, de l'accueillir, de le recevoir et de l'écouter, surtout. Et réparer, encore une fois, c'est un terme qui est très fort.
Ouais.
Je ne pense pas qu'on ait cette capacité de réparer qui que ce soit.
D'accord.
En revanche, on peut semer des graines, ouvrir des fenêtres.
Ouais.
Et ils se sauvent eux-mêmes, en fait.
Moi, j'ai lu et beaucoup apprécié L'Enfant des cendres. Et je vais faire le lien avec ce que vous venez finalement de raconter. Alors, je vais remettre dans le contexte et raconter un petit peu à nos auditeurs, téléspectateurs. L'Enfant des cendres nous plonge en Irlande du Nord dans les années 90 et nous raconte l'itinéraire, le chemin de vie de Marcella, n'est-ce pas? Une enfance au cœur d'une Irlande estropiée, mais vraiment ensanglantée par la guerre, travaillée par les luttes, la révolte, la loyauté, les trahisons, beaucoup de trahisons aussi, la violence quotidienne. La jeune fille se construit tiraillée entre l'héritage d'un papa qui a choisi de s'engager dans la lutte clandestine et une maman qui, elle, vraiment rejette de façon presque viscérale cette violence. Et pour vous, Marie, il s'agit à mon avis moins d'observer l'histoire avec un grand H que d'approcher vraiment les blessures, les cicatrices, les failles, les chagrins. Est-ce que nous sommes capables d'en faire, en fait? Est-ce que c'est l'histoire de Marcella?
C'est exactement ça. En fait, le cœur du roman, vraiment la question qui, moi, me traverse depuis toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'histoire dans laquelle on est? Après, ça ne m'intéressait pas forcément de parler de violence au sens spectaculaire.
Oui.
Donc, ce n'est pas un roman historique. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'aller découvrir l'envers du décor, les coulisses et donc les traces de cette histoire collective, ce qu'elle fait dans une histoire intime.
Oui, c'est exactement ça. Et très sincèrement, vous l'avez fait de manière admirable. On prend vraiment plaisir à la suivre parce qu'on se demande toujours voilà, ce qu'elle va faire de ce qu'elle a vécu. Et c'est ce que je pense que vous vouliez, en fait.
C'est exactement ça, oui. C'est un moment, elle fait un état des lieux. Elle se brûle dans cette histoire qui la dépasse forcément. Et la question, c'est « Ok, j'ai reçu ça, mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?»
Alors, je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment le cœur de votre roman. Ce que va faire Marcella de ses traumas, du moins, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Moi, il y a une question qui a émergé. Pensez-vous que nous, les femmes, sommes plus poreuses, plus sensibles, plus perméables, j'allais dire, au poids de l'héritage et surtout, n'avons-nous pas la capacité d'en faire quelque chose plus encore peut-être que les hommes? Je ne sais pas, je pose la question. Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis moins radicale sur le sujet. Je suis moins radicale et je crois très peu au côté binaire.
D'accord.
Homme, femme, voilà. On a chacun nos sensibilités.
Ouais.
La forme est différente.
Mm-hmm.
Le fond reste le même. Je pense qu'on est tous à même, quel que soit... Voilà, l'être humain est à même de choisir ce qu'il en fait. Et homme comme femme, en fait, c'est notre chemin, notre parcours personnel de décider... Est-ce qu'on va en faire? Mais non, j'aime pas trop
Alors,
le côté binaire.
Alors, on ne fera pas sur le binaire. Par contre, dans ce roman, il y a une place quand même qui est donnée, une place importante aux femmes. Et moi, ce qui m'a redonné baume et espoir, c'est cette histoire de solidarité, de sororité. Parce que, donc, il y a Marcella qui est aidée, je n'en dirais pas trop, mais quand même par une avocate, par sa maman quand même, qui l'observe et la suit de loin. Et par cette figure quand même importante de la médiatrice, de l'enseignante en prison. Je ne vous dis pas tout, mais quand même, il y aura un passage un peu difficile dans sa vie. Et je trouve qu'elle forme une chaîne de solidarité. Vous l'avez voulu comme telle?
Alors, j'écris depuis les femmes parce que c'est ma sensibilité et que c'est certainement plus évident pour moi d'écrire à partir des femmes. Après, encore une fois, je pense que... Tout est interaction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre les êtres. Et oui, effectivement, il y a Maureen, il y a Ellie, il y a Moira, mais il y a aussi Dani, il y a Paddy, il y a Jerry, qui participe à sa déconstruction et à sa perte.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé la figure du papa, qui, bon, comme tous, mais vous travaillez aussi les paradoxes, est évidemment un révolté, un clandestin, mais en même temps, tout en sensibilité.
Oui, parce qu'il porte vraiment en fait cette colère qui pour lui est juste et authentique. Et on ne peut pas aller contre l'authenticité.
Il y a une histoire d'authenticité, c'est vrai, dans ce roman, et de justice et d'injustice. Et vos personnages, je trouve, et c'est le cas de Marcella, comme certainement son papa et sa maman aussi d'une certaine forme, sont travaillés par les injustices constantes qu'ils subissent. Alors j'ai beaucoup appris grâce à vous, je voulais vous le dire, notamment... par cette vie que menait, qu'ont mené et qu'ont subi les Irlandais du Nord, notamment, je pense à la famille de Marcella qui vit dans ces immeubles insalubres, dans ces pièces petites, humides. Et tout ça, je l'ai appris grâce à vous, je voulais vous remercier. Il y a quand même un travail que vous faites pour...
Il y a toujours un travail de recherche que je fais quand... en fait, le lieu... je ne choisis pas les lieux de mes romans comme des cartes postales.
D'accord.
Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et l'Irlande, en fait, s'est imposée parce que d'elle-même, elle portait déjà le paysage intérieur que je voulais explorer à travers les tensions chez Marcella. Et effectivement, qui sont l'attachement, la colère, la loyauté et la fracture. Donc oui, il y a tout un travail de recherche. Et les Divis, du coup, cette cité où étaient parqués les catholiques, était aussi une forme de mise malheureuse en lumière de ce que les Irlandais du Nord avaient pu vivre.
Ouais. Et c'est très touchant quand on le lit, quand vous le donnez à voir comme ça, ce quotidien très difficile dans lequel finalement a grandi Marcella. Alors, je ne vais encore une fois pas tout dévoiler, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que dans son parcours, Marcella, elle arrive à sublimer le trauma par l'écriture. Le conte, la transmission, l'enseignement. Et l'on peut dire que pour elle, à un moment donné, c'est une véritable renaissance. Encore une fois, je crois que là, vous touchez de cette question, que fait-on de la blessure, du chagrin? Soit bah, on le vit de manière très négative et on est dans la rumination, soit on est comme Marcella et l'on en fait quelque chose. Pour vous, la création, c'est vraiment la voie de l'apaisement?
Je crois que la mise en mouvement est la voie de l'apaisement. D'accord. Et la création peut prendre des formes très différentes. Donc effectivement, il y a la création artistique, l'écriture, la danse, le chant, la musique, etc. Mais ça peut être aussi dans les petites choses du quotidien.
Comme
une maman qui va préparer un plat pour ses enfants ou une grand-mère qui va tricoter des pulls pour ses petits-enfants. À partir du moment où on met en mouvement, où on déplace en fait quelque chose qui peut nous chagriner, nous bloquer, le fait justement de le déplacer, encore une fois, ça permet une forme d'apaisement.
C'est exactement ce que vous retrouverez dans le roman. Et je crois qu'il y a voilà, cette histoire, vous avez totalement raison, de mouvement et de don. Ce qu'on est capable aussi de donner à l'autre. Même si on a des blessures, même si on, si on s'est retrouvé dans la vie, comme nous tous, on passe par des passages très très difficiles. Alors, moi j'ai une question, mais de curieuse, d'écriture et littérature. Comment elle naît, Marcella? Comment ils naissent vos personnages? Qu'est-ce que c'est des petites voix intérieures que vous laissez parler? Tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'écriture, c'est l'espace qu'on laisse, en fait, c'est ça?
Alors, comment elles naissent? Je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui parle très peu. D'où l'exercice oral est un petit peu plus compliqué pour moi.
C'est très réussi aujourd'hui, je t'inquiète pas.
Donc, en fait, je reçois beaucoup de tout ce que je peux vivre, de tout ce que je peux observer, ressentir. Après, j'ai une grande phase de silence parce que j'en ai besoin pour pouvoir justement déposer un petit peu tout ce qui m'a été offert par le quotidien, par le vivant. Et le fait de m'offrir cet espace de silence permet à mes personnages petit à petit en fait, de grandir en moi.
De trouver leur place en fait.
Donc, je ne parlerai pas de forcément d'intuition divine, de grâce. C'est, encore une fois, c'est le vivant qui, à un moment, prend naissance sous la forme d'un personnage. Et ensuite, ce personnage devient très vivant dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand j'écris, quand je suis en phase d'écriture, il m'arrive parfois d'être à une terrasse de café ou de me promener et de me dire « Ah tiens, en l'occurrence, Marcella aurait pensé comme ça. »
Ah d'accord, intéressant.
Ah, elle aurait ressenti ça. Peut-être qu'elle aurait réagi comme ça. Et de là, en fait, je tisse mes histoires.
Ouais. Ce qui donne finalement un personnage, c'est vrai, très cohérent, finalement, dans sa façon de vivre les choses. Et encore une fois, je trouve que l'intérêt dans vos romans, c'est de toucher à la complexité humaine et des sentiments humains. C'est-à-dire que...
C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Moi, personnellement, c'est ce qui me nourrit, c'est que j'aime profondément l'humain. Dans ses contradictions, dans ses magnificences aussi, parce que l'être humain est quelqu'un de magnifique, malgré les ombres, malgré les lumières. Et oui, tout part de l'humain. C'est toujours l'humain qui est remis au centre.
Et ça donne quelque chose, en tout cas, de très, très intéressant. Je m'élève un peu dans le monde littéraire, en général. Pourquoi avoir fondé votre propre maison d'édition?
Je crois qu'au départ, c'est par souci de cohérence et une profonde volonté d'indépendance.
Ouais.
J'ai eu la chance d'être publiée. J'ai rien contre les maisons d'édition classiques, au contraire. J'ai eu la chance d'être publiée par deux fois pour mes deux premiers romans. En revanche, je ne me retrouvais pas dans cet espace qu'ils m'offraient, justement. Et j'avais besoin d'offrir cette liberté à mes textes, de pouvoir les accompagner de A à Z. Et jusque dans la mise en page ou dans la couverture que j'ai créée, et même dans la mise en page, de donner cette respiration, de chorégraphier mon texte. Donc je me suis offert cette possibilité de publier mes propres romans, sachant que mon fil conducteur restera toujours l'accompagnement.
Oui.
Et que par la suite, évidemment, je souhaite accueillir d'autres voix pour pouvoir leur offrir ce que... J'ai su un peu les plâtre, pour tout dire,
oui.
En termes de, voilà, de la mise en page, etc., la communication derrière. Je prends mes marques, et une fois qu'elles seront prises, je me
vous
donnerai la possibilité de...
Auteurs.
Oui.
D'autres autrices, d'autres auteurs.
C'est un souhait que
d'accord.
J'ai.
D'accord, donc c'est dit, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y aura finalement une espèce de ligne éditoriale? Est-ce que vous avez envie d'accueillir ces récits qui tournent autour des récits de vie, de l'intime, de l'humain ou...
Alors, je ne suis pas forcément touchée par un texte parfait.
D'accord.
En revanche, un texte qui va avoir une âme, une sensibilité, une pudeur aussi, et beaucoup d'humilité. Parce que je crois qu'on a... personne ne détient la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. En revanche, chaque parcours peut éclairer celui d'autres. Et dans la mesure où il y a cette âme et cette sensibilité, ça fera partie tout simplement de ma charte éditoriale. En fait.
Tout a été enregistré comme ça, mais c'est très bien comme ça, vous diffusez ce message. Et moi, j'ai lu dans l'excellent Parole de Corse, à qui vous avez donné une belle interview, que l'Enfant des cendres initie un cycle de 4 volumes intitulé Les Traversées.
Oui.
Très joli mot. Les 3 autres romans vont suivre qui donneront voix à d'autres femmes à travers d'autres territoires. Vous pouvez nous parler de ces territoires ou pas encore?
Alors, je peux commencer à vous parler du prochain. Les
oui.
autres, je les garde un peu,
bien sûr.
Un peu sous la main parce que ils sont définis. Mais là, je vais du coup donner la place à mon prochain personnage. Ce sera au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Et la question, c'est... je voulais recouper comment est-ce qu'un territoire traversé peut faire écho à un corps traversé.
Ah,
et donc, mon personnage sera ce qu'on appelle un peu de manière... comment je vais dire ça? Un peu légère, on dit une fille de joie.
Ah.
De joie pour certains, pour elle un peu moins. Et donc voilà, les traversées, en fait, ça va être des formes de domination différentes sur des territoires différents.
Notamment le territoire du corps aussi.
Et là, du coup, on va explorer justement la domination corporelle.
Mais Marie, nous avons hâte de lire ce prochain roman. En attendant, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Marie Maurits, L'Enfant des Stands. Très, très, très joli roman. Marie, merci beaucoup.
Et merci à vous, Elisa.
Parce que vos paroles sont lumineuses, ça fait du bien de nos jours d'accueillir des gens qui sont capables de transmettre la lumière. Donc je vous remercie vraiment.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, à bientôt sur les ondes de Radio Corse International et à la télé sur Télépaez. Ce matin, j'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer André Casabianque, peintre et journaliste, dans le cadre de l'exposition à la galerie Noir et Blanc au centre de Bastia. Et bonjour André Casabianque.
Bonjour.
Quel plaisir et quel honneur pour moi de mener cette interview. Je suis très très contente, vraiment. Nous sommes très bien installés dans la galerie Noir et Blanc, dans le cadre d'une très belle exposition qui débute aujourd'hui, me semble-t-il.
Exact, aujourd'hui.
Jusqu'au 20 juillet, c'est
nous
ça.
Nous avons les mêmes dates, c'est formidable.
Oui, c'est formidable. moi, j'ai eu le temps de m'imprégner de cette exposition. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié de vous présenter parce que vous êtes un être multicasquette. Vous êtes peintre, journaliste, peut-être bien d'autres choses aussi.
Non, ça suffira bien.
Oui, ça suffira.
Non, j'ai été pendant très longtemps journaliste, une quarantaine d'années. Mais parallèlement, j'ai toujours peint. J'ai toujours eu ce désir. On peut dire que c'est une envie, quoi. Mais c'est un problème de famille, si vous voulez, parce que ma mère était prof de dessin, mes oncles peignaient. J'étais dans une ambiance quand même.
Vous avez baigné là-dedans.
J'ai quand même baigné. Je ne veux pas tricher. Voilà.
Très bien. Moi, je vais commencer par ma première question, parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je dirais, dans le cadre de cette expo. c'est votre rapport à la couleur. Alors, vous travaillez des roses, des blancs éclatants, des verts, des bleus ciel. Est-ce qu'il y a une intention derrière ce travail de la couleur, André ?
Ah oui, 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 très fort, oui. Oui, c'est plus qu'une intention.
Ouais.
C'est une réflexion, un travail, une relecture. Et les couleurs, c'est forcément ce qui m'interpelle. On peut le dire vraiment, je vais dans un monde de couleurs, je suis bien dans un monde de couleurs. Par exemple, j'ai des préférences avec Henri Matisse ou Jackson Pollock, ou même David Hockney. J'aime les vrais peintres, c'est-à-dire les peintres...
C'est quoi un vrai peintre ?
Un vrai peintre, c'est quelqu'un qui utilise les couleurs le plus simplement du monde, mais le plus fort possible.
Ouais.
Parce qu'il faut que les couleurs vous imprègnent, il faut qu'elles vous lancent des messages. La couleur, c'est déterminant pour moi et pour beaucoup d'autres. Hein.
Ouais. Voilà. Et c'est lorsqu'on entre dans cette galerie noir et blanc, c'est justement ce qui à la fois interpelle et enchante. Moi, je m'y sens très bien dans ces couleurs. Alors, par contre, il y a un tableau dont j'aimerais que l'on parle en particulier, qui est étrangement, vous allez me l'expliciter, est plutôt dans les tonalités grises, un vert, et qui s'appelle Le Départ. Donc, on en revient à ce qui vous poursuit, ce rapport à cette enfance tunisienne que vous avez quittée.
Oui, oui, c'est tout à fait ça.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand nous sommes partis de Tunis, quand même, j'étais dans la petite enfance.
Oui.
C'est-à-dire que j'avais des copains, on était heureux, et d'un coup, brusquement, il a fallu partir.
Ouais.
En une nuit,
tout
mon
a changé.
Père nous a lancé le message, nous allons partir demain matin. Donc, il y a eu cette violence. Mm. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu ce sentiment d'un abandon.
L'arrachement.
Un arrachement.
Ouais.
Et à partir de cet arrachement, il a fallu vivre. Vous savez, les humains, nous trouvons toujours
des
moyens, des ressources.
Moyens.
Donc je me suis retrouvé dans un autre monde, en France pour ne pas dire, et dans le Puy-de-Dôme.
Oui.
Et quand nous sommes arrivés dans le Puy-de-Dôme, il y avait de la neige, il y avait... Et puis mes études, j'étais en avance. Je me suis retrouvé avec des bougres qui avaient 3 ans ou 4 ans de plus que moi, que je trouvais monstrueux et une vulgarité épouvantable. Donc je me suis retrouvé tout seul. J'ai fini par faire donc l'école buissonnière, comme on dit.
Mm-hmm.
J'ai commencé à lire tout seul dans les parcs, etc., etc. À m'enfermer même dans mon grenier, hein, oui.
Est-ce que l'art, c'est une manière aussi de nous sauver à un moment donné et de travailler ces arrachements, et, enfin, d'en faire quelque chose ?
C'est une solution.
Ouais.
Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais personnellement, j'ai choisi la peinture. C'est un chemin, c'est une pratique et c'est mon plaisir. Hein, parce que c'est un peu d'égoïsme aussi. Il faut se faire plaisir parce qu'on ne correspond pas avec les autres si soi-même, on n'est pas heureux.
C'est vrai.
Madame.
C'est très vrai.
Ouais.
Donc, ces couleurs, finalement, que l'on retrouve dans ce monde de méditerranéen et même ici en Corse, hein, je dirais que moi, quand je vois ces peintures, je me dis, voilà, ce bleu-là, c'est le bleu de notre ciel de Méditerranée.
Oui.
C'est ça. Et c'est la Tunisie pour vous aussi. C'est cette enfance.
Ben, et attention, je ne fais pas une fixation sur la Tunisie. Mais quand même, je reconnais que c'est un atout pour moi aussi. J'en abuse pas, j'espère. Mais c'est très sentimental. Ça, je suis d'accord. Mais la Corse aussi, c'est sentimental.
C'est sentimental.
C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Corse, c'est là où j'ai eu envie de peindre. C'est en Corse que j'ai vraiment... Je crois que j'ai ressenti des choses très fortes et je me suis mis à l'abri un peu quand nous sommes arrivés avec mes tableaux, voilà.
On en vient à la Corse, justement. Face à moi, j'ai un tableau très intéressant. Et je crois que c'est le premier qui a finalement tapé un petit peu la marétine. À la fois très coloré et j'y vois donc un arrosoir. Et dessus, il y a inscrit Lupine, un peu plus haut, Cité Aurore. Est-ce que vous pourriez... Et 1964. Est-ce qu'on pourrait en parler ? Et puis, alors, Lupine au Cité Aurore, et puis il y a cette espèce de végétation, ces fleurs, ces fleuris. Qu'est-ce que ça évoque, ça signifie tout ça ?
Dès que je suis arrivé en Corse, c'est-à-dire la première fois avec mon père, 1964, 66, peu importe les dates, Nous sommes allés à Lupine, il avait un cousin là-bas, c'est très simple. Et là, on s'est retrouvés avec des jardins, avec des cabanes, avec des choses magnifiques. Et quelques années plus tard, j'ai dû revenir en Corse en 77 ou 80, je ne sais plus. Le même cousin avait changé de lieu, ce pauvre malheureux, qui vivait à la Citadelle et qu'on a basculé à Loupine dans des immeubles, certes avec une douche, certes avec des fenêtres plus grandes, mais disons, pour lui, c'était une désolation, une tristesse. Ce bouleversement à la fois des habitations et ce déplacement des populations, pour moi, c'est une horreur. C'est-à-dire, là, je me suis un peu rappelé Tunis aussi, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, mais tout à fait autrement.
Vous savez, ça fait écho ce que vous me racontez, parce que j'ai mon papa qui a vécu cette enfance à la Cité Aurore, dans les années 60, et qui m'en parle toujours avec émerveillement, parce que pour lui, c'était très vert, cet environnement. Il y avait ce rapport particulier à la nature, le maquis, et je le retrouve en fait dans votre tableau. C'est ça.
C'est
hein
formidable.
Ouais. Vraiment, qui a disparu malheureusement parce que...
Mais c'est un langage.
Ouais, c'est un langage.
C'est un langage qu'on établit. On parlait des couleurs tout de suite au départ, mais c'est un langage, c'est un transfert de plein de choses. Et on utilise les couleurs, les mots, parce que j'ai aussi des inscriptions sur les mots un peu. Là, c'est vraiment l'enfant, c'est-à-dire donne-moi un mouflon et bavet. Là.
Ouais.
Pour moi, c'est l'histoire du Petit Prince. C'est une des plus merveilleuses histoires au monde.
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Voilà.
Avec là aussi un très beau travail sur le dégradé des couleurs, un petit peu plus, j'allais dire presque pastel. Donne-moi un mouton. Moi, j'en reviens au tableau qui est face à moi, alors que les téléspectateurs ne voient pas, mais verront, et je vous invite vraiment à venir admirer ces tableaux. J'ai Hollywood écrit dans un rose éclatant, j'allais dire, pardonnez-moi, presque un rose un peu Barbie, dessous une allée de palmiers. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce tableau aussi ?
Ben, ce tableau, c'est un exotisme. Le départ, un peu le titre du départ de mon expo, c'était « Les paradis perdus
».
Et Hollywood, on peut dire que ça a moins d'impact comme quand nous étions, on va dire, jeunes. Donc j'ai voulu, avec beaucoup d'amour, un peu chahuter déjà le terme, parce que ce n'est pas Hollywood, c'est Hollywood, c'est-à-dire l'admiration et l'étonnement, et à la fois la beauté de l'imagination. Hollywood, c'est la création de plein d'univers. C'est tout à fait ce que nous faisons, nous essayons de faire, voilà, chacun dans son coin. Voilà.
Dites-moi, si je me trompe, moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que je passais avec ces tableaux d'une sorte de territoire à un autre. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu?
Oui, il y a la notion de la terre.
La terre.
C'est-à-dire l'occupation d'une terre. Mm-hmm. Quand je parle également de Gaza, c'est la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a cette occupation et cet acharnement sur une population. Pour moi, c'est insupportable. Bon, voilà. Donc, j'ai voulu aussi, il y avait un autre sous-titre de l'expo. C'était territoire, mais c'était terri-tiré.
Ah, toire, avec un jeu de mots,
oui,
territoire.
Voilà. Oui, parce que c'est important. Nous sommes tous dans un territoire, et soit on s'y sent bien, soit on est rejeté, soit on est accepté, mais l'humain est collé à son territoire, normalement.
C'est ce que vous avez voulu aussi figurer dans ce très beau tableau qui s'appelle Corsica, avec cette tête de mort là encadrée.
Oui, mais vous voyez, il y a aussi du bonheur autour.
Oui, je vois.
Parce que ça compte énormément, cette envie de vivre, cette envie de voir des belles choses autour, ce que nous avons quelquefois en Corse quand même. Bon, on a encore ce bonheur. Voilà.
Et alors vous qui êtes passé, parce que vous nous l'avez très bien raconté finalement, d'une terre à une autre, est-ce que ici, finalement, c'est l'endroit où vous existez le mieux et où vous vous sentez vraiment bien?
Ah oui. Oui, franchement. On pourrait tricher, parce qu'on voyage beaucoup. Moi, j'ai beaucoup voyagé.
On m'a dit que vous aviez exposé au Japon l'année dernière.
Oui, je fais un... Oui, ça s'appelait l'incertitude des rêves. Oui. Mais l'expérience du Japon est une grande expérience pour moi, puisqu'il a fallu... mais l'appréciation a été très agréable à entendre. Il y a eu un beau public, et je ne sais pas, ça collait bien avec le rêve que je proposais. Parce que je propose des rêveries quand même.
Vous proposez des rêveries?
Oui.
Vous passez d'une île à l'autre, là, en plus, mais c'est vrai que d'une île très, très lointaine.
La Corse, c'est très important pour moi.
Oui.
Très important.
Ça se ressent, en tout cas, dans vos peintures, dans cette exposition. Je vous y engage, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, téléspectatrices, à venir flâner, admirer. Et très sincèrement, on se sent bien, j'avais envie de vous le dire, au milieu de vos peintures. Moi, en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Je vous remercie, André Casabian. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque
chose ?
Non,
rien du tout. Non,
c'est
ça
vrai.
Ça a été formidable.
Tant mieux.
C'est un échange qui est agréable.
Tant mieux.
Merci beaucoup.
J'en suis heureuse.
Merci.
Merci RCI, merci Télépaèse et à très bientôt.
Merci Elisa, et n'hésitez pas donc à acheter ce livre et à aller faire un petit détour dans la galerie Noir et Blanc. On se refait un petit point sur l'été d'information avec Philippe.
Un homme de 48 ans qui avait chuté d'une trentaine de mètres à Asco, secouru par les pompiers et transporté à l'hôpital de Bastia. Après le coup de feu tiré samedi à Ponte-Novo, un homme a été mis en examen pour violence volontaire avec armes et détention et port prohibé d'armes ou de munitions et placé en détention provisoire. Ce mardi s'ouvre à Marseille le procès de cet homme soupçonné d'un projet d'assassinat en pleine orientale en 2021. La polémique sur la croix de Coiscar a relancé. La cour administrative de Marseille vient en effet de juger non conforme à la loi l'installation de cette croix de 3 mètres à l'entrée du village en 2022. Et puis en football, reprise du SCB, 22 joueurs étaient sur la pelouse de l'IGESA hier, alors que les dirigeants présentent ce mardi le budget de 9 millions d'euros à la DNCG. Météo, soleil en bord de mer, averses et orages dans l'intérieur de l'île.
Voilà, Philippe. Merci, Philippe. Bon, c'est les vacances côté été, c'est pas les vacances côté radio. On vous retrouve quand même sur la radio. Hein. En vous souhaitant de passer vos vacances quand même. Voilà, donc un grand merci à Franco Farzetta et toute son équipe de Télépaèse et pour la confiance qu'il nous accorde et pour l'amitié. Voilà, et puis surtout vous qui êtes devant votre téléviseur ou à l'écoute de Radio Corse International, vous êtes de plus en plus nombreux, de jour en jour à nous suivre. Et c'est formidable, c'est ça qui nous permet de continuer. Voilà, un grand merci à vous, et puis continuez à nous suivre sur la radio tout au long de l'été. Je veux remercier aussi toute l'équipe de Radio Corse International, les chroniqueurs, les journalistes, les techniciens. C'est une vingtaine de personnes qui œuvrent tous les jours pour cette radio. Donc un grand merci à... Et que des bénévoles, voilà, à signaler, il n'y a que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés dans Radio Corse International, ce ne sont que des passionnés. Voilà, je veux leur souhaiter aussi de très bonnes vacances. Vous allez pouvoir les retrouver quand même sur la radio avec leurs chroniques. Voilà, et voilà, donc c'est tout simplement, je vous remercie de nous suivre. On vous donne rendez-vous donc en septembre pour côté télé. Côté radio, on continue quand même. On vous invite à nous envoyer des petits messages. On nous retrouve aussi sur les réseaux de temps à autre. Voilà, un grand merci à vous tous. Passez un été formidable. Soyez prudents. Tenez de vous et je les dois mettre. Et merci encore une fois à vous tous.
Bonjour, salut à tous.
À l'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
Si vous en prégui.